Élections départementales des 22 et 29 mars 2015. Dans le studio, Jacques Tabarly, Anne-Philippe, bonjour.
Bonjour, monsieur Péricas.
Alors, présentez-vous, peut-être que, bon, quand on est conseiller général sortant, c'est moins compliqué, on n'est pas novice et ça ne sort pas de nulle part, mais quand même, Jacques Tabarly, maire de Sept-Fons, conseiller général sortant, d'un des trois cantons qui ont été regroupés pour cette élection.
Voilà, je dirais même, M. Péricas, quatre, puisque c'est Montpezat, avec quelques communes.
J'oublie toujours Montpezat.
Voilà, donc trois communes, c'est Caussade, c'est Caylus dans son entier et Saint-Antonin-Nobleval. Alors, candidature, ben, comme vous l'avez dit, c'est le. Je suis conseiller général sortant du canton de Caussade. Et comme désormais le bas du nouveau canton ne fait plus partie du pôle caussadé, ben, nous sommes rattachés au nouveau canton. Je dis bien Quercy-Rouergue. Ce qui est une belle entité qui regroupe nos deux pays, le Rouergue et le Quercy. Et donc c'est le fait de regrouper 25 communes qui ont pour atout commun, puisque les grands pôles, comme je l'ai dit, n'y sont plus, Caussade, c'est des communes rurales, dont maximum c'est 2000 habitants. Voilà ce que je peux dire. Donc le point commun, c'est la ruralité, et ce qui doit être notre force, avec des atouts que définira mon binôme, Anne-Philippe, c'est la solidarité qui doit exister entre nos territoires. Nous avons déjà, je ne veux pas être trop bavard, mais l'habitude de travailler au sein des communautés de communes, de porter ensemble des projets, et la chance aussi de nous retrouver dans ce pays Midi-Quercy, qui n'a pas évolué, les contours restent les mêmes du pays Midi-Quercy. Donc il y aura dans ce pays Midi-Quercy un pôle urbain avec Nègrepelisse, et Caussade, et il y aura un pôle rural, beaucoup plus rural, avec
tout le reste,
tous les autres, et où, je le dis, la présidence du pays Midi-Quercy est assurée par le maire, nous sommes à Caylus, le maire de Caylus, qui est le président du pays Midi-Quercy et qui porte ses politiques. Alors le conseil général, puisque j'ai ce vécu de 4 ans, qu'est-ce qu'il fait ? Il travaille en harmonie, bien entendu, avec les communes. Il travaille avec les communautés de communes et il travaille surtout en appui du pays Midi-Quercy qui a préparé les dossiers. Et il vient en tant que cofinanceur ou acteur majoritaire et il est un peu, parfois, la locomotive de certaines politiques dont on parlera tout à l'heure.
Anne-Philippe, enfin la parité. Enfin, des conseillères départementales, par la force de la loi, il y en aura, on sait combien, pour le coup, puisque ce sont des binômes qui sont élus.
15,
impeccable. Vous venez de quel endroit, de quelle commune, de quelle souche?
Souche guépienne, je suis de la Guépie, je suis domiciliée à la Guépie, j'ai été conseillère municipale à la Guépie. Et je participe à la vie associative. Je suis membre du motoclub guépienne. Voilà. Pour l'activité professionnelle, je travaille à Albi. Je suis désolée, mais je sors du département. Et je suis cadre administratif dans le domaine sanitaire et social.
C'est quelque chose qui vous motive, ça, le social ?
Oui.
Oui. Et comme c'est une des compétences des anciens conseils généraux du futur conseil départemental, on voit très bien où vous allez vous mettre.
C'est probable.
C'est probable. Là, cette candidature, vous la menez pour prolonger un travail, le finir, renouveler, rebondir.
Comme on l'a dit, pourquoi être candidat Nous sommes consultés avec les conseillers généraux sortants, je ne suis pas là pour parler d'eux, mais en l'occurrence, j'ai rencontré Anne-Philippe à l'occasion de cette mandature, puisqu'elle était la suppléante, je le redis, de Jean-Paul Reynal, qui ne se représente pas, et Anne-Philippe venait assister en tant que suppléante, donc elle écoutait, elle a suivi une précédente campagne, et elle suivait quelques... elle assistait dans les, aux sessions du Conseil Général. Donc nous sommes, tout naturellement, comme il y avait un binôme et une parité homme-femme, le propre d'un suppléant, c'est un jour de devenir titulaire. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, nous avons évoqué notre candidature commune, et ensuite on n'a pas parlé aussi des suppléants, nous avons des suppléants. Anne-Philippe parlera de sa suppléante, moi je parle de mon suppléant, c'est Stéphane Larocque. Pourquoi Stéphane Larocque? C'est un jeune maire, il a 40 ans, mais il a déjà, c'est son quatrième mandat, pas de maire, mais il a été tour à tour conseiller municipal.
Mais pas dit d'où ?
De La Penche. Maire de La Penche, conseiller municipal, adjoint au maire et aujourd'hui maire. Nous sommes, comme vous l'avez vu, tous tombés, passez-moi cette expression, dans le social. C'est un tropisme peut-être un peu fort, même si ça va représenter la compétence principale du conseil départemental. Il convient de rappeler que notre département de Tarn-et-Garonne, puisque c'est pour un département que nous travaillons, est à dominante agricole, et que dans les atouts du Quercy-Rouergue, c'est à la fois la diversité des paysages, on en parlera sur le plan touristique, mais c'est aussi une agriculture qui est diversifiée, et donc on a besoin d'avoir quelqu'un qui porte haut, mais qui connaît l'agriculture et qui peut défendre aussi ce territoire. Voilà ce que je tenais à dire au titre des candidatures. Après, c'est bien entendu, je me sens, il a été réélu et bien épaulé, bien entouré à cette fond, disponible pour la mission qui était la mienne, puisque non seulement j'étais conseiller général, je dois dire président de la commission santé, solidarité, action sociale. Et donc, il y a des politiques qui ont été engagées de l'enfance, en passant par l'enfance en difficulté. Il faut pas oublier l'aide sociale à l'enfance, le handicap. Je vois toutes ces avancées, toutes ces politiques qui ont été menées avec l'Agence régionale de santé. Et donc, comme on arrive également avec un vieillissement de la population, il y a des politiques à développer et même à accentuer, et j'y reviendrai. C'est pour ça que ça a été, si vous voulez, l'objet de cette rencontre, de ce binôme constitué, cette complémentarité que nous avons, et sur cet effort de solidarité que nous devons jouer entre les communes.
Votre remplaçante, à vous, Anne-Philippe.
Marie-Yolande Mila, de Saint-Antonin-Nobleval. Elle est actuellement adjointe au maire de Saint-Antonin-Nobleval. Elle a en charge l'urbanisme et l'action sociale. Elle est infirmière de métier et elle exerce à Saint-Antonin un établissement au service des personnes âgées.
D'accord. Pour vous deux, quel est l'enjeu de cette élection? Il va se passer quelque chose là? Vous croyez que cette campagne mord sur le public? Et si elle ne mord pas, c'est à tort parce qu'il y a des enjeux?
Alors, l'enjeu, quel est-il? Si on situe au niveau de la politique, on pourra en parler si vous reposez une autre question. Moi, je le vois surtout au bénéfice d'un département qui a la chance, le Tarn-et-Garonne, de connaître, je ne crois pas me tromper, la plus forte augmentation, la plus grande augmentation démographique. C'était le cas en 2013. Ça a été le cas encore en 2014, et aujourd'hui 253 000 habitants, et à échéance de 20 ans, c'est 50 000 habitants de plus qui arriveront dans le Tarn-et-Garonne. C'est pas neutre. Ça veut dire que quelque part, on est proche de la grande ville, qui est Toulouse. Mais enfin, proche de la grande ville, on peut aller au nord, au sud, à l'ouest. Il y a des départements qui sont loin d'être désertifiés, et donc c'est quand même le Tarn-et-Garonne qui connaît cette forte croissance. Donc, il s'agit.
Mais ouais. Pardon, il y a quand même encore des zones blanches.
Alors, mais les zones blanches pour le numérique.
Pourquoi d'autre? Pour la téléphonie et pour l'accès à Internet.
Alors, je dis déjà faire face en tant que département à ces politiques. Donc, pardon de dire cela, désormais dans les compétences qui sont affichées, Je vous ai parlé du social, on ne va pas en remettre une couche. Il faut savoir que ça existe. Et ce ne sont pas que des jeunes qui arrivent dans nos départements. C'est toutes les catégories sociales, des plus jeunes aux plus âgés. Donc, mission économique. Est-ce que ça va être la compétence du département? Me semble-t-il désormais, il n'y a plus de compétences générales. Il s'agit de compétences bien délimitées. Donc, ça serait tout l'économique, ça serait la région qui le porterait. Et la région, ça fera l'objet d'une autre campagne des régionales. On n'est pas là pour parler des régionales. Il ne faut pas l'oublier, puisque l'économie, désormais, ne fait plus partie des compétences générales du département. Et donc, ça glisse vers la région. Avec l'emploi aussi, donc une grande partie de l'agriculture, etc. En fait, il y a des collèges. Donc, dans le social, il y a les crèches, tout ce qu'on peut faire pour accueillir ces nouvelles personnes. Il y a aussi, donc, les collèges. Des collèges vont être construits. Et ensuite, dans notre territoire, parce qu'on parle du département, mais il s'agit de parler du Quercy-Rouergue, ben, aujourd'hui, il y aura une partie du bassin naturel tels que cette fonte, ou Cariège, ou Saint-Cyr, qui ira bien entendu vers le collège de Caussade, qui voit sa capacité bien établie. Près de 1000 jeunes sont au collège de Caussade, sans oublier l'institution privée, qui est également aidée par le Conseil général. Et également, il y a un collège qui est celui de Saint-Antonin, Béraud, le collège de Saint-Antonin, qu'il s'agit de conserver, et ainsi que tous les services également. Les routes resteraient dans la compétence du département. Voilà autant de points. Alors, vous avez évoqué des problématiques. Les problématiques aujourd'hui, oui, parce qu'elles sont pas, elles sont posées. Il y a des axes qui sont en train de se mettre en place. On a à faire face dans notre ruralité à... Pour évoquer le secteur santé, comme vous l'avez dit, qui est le plus important, quitte à le redire, mais c'est une des préoccupations avec l'emploi des Français, la désertification médicale. Donc, le département de Tarn-et-Garonne a défini des zones prioritaires. Et aujourd'hui, c'est pas... Donc, il y a une maison de santé pluridisciplinaire à Varennes. Il y a des solutions qui ont été trouvées, même si ça ne répond pas à ce critère du cahier des charges pur et dur de l'Agence régionale de santé, des solutions ont été trouvées à Parisot. Caylus a trouvé d'autres solutions. Cette fond est en train, et Saint-Antonin sont en train d'en chercher d'autres. Tout cela, c'est quand même une préoccupation de nos administrés. Première chose. Ensuite, vous parlez des zones blanches. Bon. Le Conseil général a arrêté, depuis plus d'un an, une politique sur le schéma départemental d'aménagement numérique. C'est voté. 60 millions, 30 millions, à peu près la moitié par le gouvernement et la région, sachant que la région en remettrait une partie supplémentaire. C'est désormais acté. Donc, il s'agit de se mettre, c'est action-réaction, comme on le dit dans le film, et à ce niveau-là, il convient de créer, c'est pas une usine infernale, l'usine à gaz, c'est d'associer les communautés de communes au développement de ce schéma numérique pour que, en proximité, les communautés de communes et les différentes communes qui auront à se prononcer fassent partie de ce syndicat et définissent bien le type de technologie qu'il convient d'adopter. Est-ce la fibre? Est-ce l'hertzien? Est-ce le satellitaire? Et ensuite, pour qu'il y ait des bénéficiaires traités à égalité selon les zones, dans les zones les plus démunies ou sous-équipées, ben c'est là, avec les communautés de communes, que le département apportera une aide au cas par cas. Je dis bien au cas par cas, qui peut aller de 300 à 500 euros. Est-ce que je suis pratico-pratique?
Oui, enfin, j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans qu'il fallait le faire, moi, mais bon.
Bah, écoutez, je crois, on fait partie des... Il y a deux départements d'Amélie-Pyrénées qui ont pu bénéficier du développement de ce schéma d'aménagement numérique.
Alors, maintenant, j'ai une question pour vous. C'est pas moi qui la pose, c'est une auditrice rencontrée dans la rue.
Alors, une question à un élu, ce serait, est-ce qu'il compte améliorer les systèmes de transport pour permettre aux gens qui n'ont pas de voiture de continuer d'habiter en milieu rural. Voilà. Là, pour aller d'une ville à l'autre, on peut aller qu'à la grande ville, on peut pas aller dans le village d'à côté. Pourtant, tous les enfants d'ici vont à l'école d'à côté, mais non, les parents ne peuvent pas aller à Saint-Antonin. Enfin, je suis un peu étonnée. Et la mairie n'a aucun papier tout fait des transports. Ils ne savent même pas qu'il y a un autobus à 8h le matin. Enfin, du coup, pour avoir les renseignements en milieu rural, vaut mieux aller à la ville d'à côté. Ils vont presque savoir mieux que dans le village. Bon, mais je viens juste d'arriver, donc ça va. Je vais pas me fâcher déjà.
Je viens juste d'arriver, je vais pas me fâcher déjà, c'est ce que dit cette personne. Mais du coup, on peut dire.
Question directe.
Voilà.
Est-ce que en fait, il y a deux questions.
Oui.
Il y a un problème, me semble-t-il, d'organisation. Alors, je vous dis pas que tout est parfait. La preuve, c'est que ce serait parfait, la question n'existerait pas. Bon, et alors je règle le premier problème, c'est peut-être un problème de communication. C'est-à-dire, peut-être, c'est où la commune laquelle est administrée de donner un peu plus de renseignements. Voilà, donc je ne sais pas quelle est la commune, donc je peux le répondre. Comme je suis maire, le maire de Sept-Fons n'a pas bien fait les choses, peut-être, en communication.
Je ne sais pas, par exemple, à Sept-Fons, quelqu'un qui arrive dans le village, il sait où il va trouver toute
généralement,
la documentation sur les
non,
associations,
on l'a pas affiché, on l'a mis dans le petit livret d'accueil que nous avons.
Il y a un livret d'accueil.
Alors, on a un livret d'accueil que l'on donne. On ne connaît pas toutes les personnes qui arrivent, puisque c'est quand même la liberté ancestrale.
C'est à elle de venir se signaler, d'accord.
Je pense qu'il faut... alors, à l'occasion, quand on rencontre quelqu'un, d'abord dans nos villages, je sais pas, on ne va pas parler de ça, mais on se dit bonjour. Quand on se dit bonjour, on se dit on peut échanger, surtout quand on est maire. Moi, j'ai l'habitude de venir comme ça, d'échanger avec les personnes, et on peut communiquer ce type de renseignements. Après, le deuxième, sur le plan organisationnel, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous resservir un schéma de mobilité. Le schéma de mobilité fait par le Tarn-et-Garonne vient, c'est un cadre. Mais aujourd'hui, les communautés de communes, je suis du Quercy-Caussadet, je crois que le Quercy-Rouergue le fait également, les terrasses et vallées de l'Aveyron, je pense aussi, il y a des transports à la demande. Ça existe, et c'est plus ou moins lié à ce que nous avons déjà mis en place, c'est-à-dire que nous avons des entreprises de transport scolaire, et ces mêmes entreprises, lorsqu'elles ont laissé les enfants, ou lorsque le transport est réalisé, restent disponibles, alors avec petit volume ou grand volume, selon l'importance de l'événement. Ce qui se passe, le marché de Caussade, le marché de Caylus, le marché de Saint-Antonin, tout cela, ça ne remplit pas un bus, c'est le cas de le dire. Donc il s'agit d'adapter la demande, la réponse à la demande. Première chose. Ensuite, il y a le quotidien et au petit niveau. Et ensuite, il y a le schéma de mobilité qui se joue pour un bassin de vie. Et le Quercy-Rouergue, il doit défendre dans le schéma de mobilité. Alors, les systèmes d'échange, d'abord, ce qui existe, les gares, quand il y en a à Lexos, il y en a à la Guépi, il faut les maintenir, tout comme on se battra pour les services de proximité, la gendarmerie, la poste, nos maisons de retraite. Et ensuite, il y a également les gares, je parle également de la gare de Caussade. Puis après, se développent des systèmes de covoiturage que le Conseil général, avec les communautés de communes, avec les communes, abonde. C'est pas le Conseil général qui va dire à tel endroit, dans telle commune, il y a le point covoiturage. C'est chaque commune qui le demande, qui le voit avec sa communauté de communes. Vous voyez, c'est pas un empilement, c'est une certaine cohérence et une solidarité qui se fait entre nos territoires. Et ces réponses, alors je ne dis pas qu'elles soient parfaites, mais aujourd'hui, c'est plus que de la recherche. Il y a des réalités. Voilà ce que je répondrai à cette auditrice.
Très bien. J'espère qu'elle a entendu. Quels sont les points de votre dépliant, de votre programme que vous voulez développer, là, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps? Anne-Philippe, on a entendu que Jacques Tabarly jusqu'à.
Qui est trop bavard.
Oui, je pourrais rappeler les atouts majeurs de notre canton. Donc nous avons un cadre de vie où l'on cultive le bien vivre ensemble. Une agriculture diversifiée qui est en constante adaptation. Des services qui favorisent le soutien à l'emploi et aux entreprises. Et enfin, mais ce n'est pas enfin, des sites de qualité et une qualité de l'environnement propice au tourisme.
Bien. En matière, par exemple, est-ce que c'est une compétence, je veux dire des bêtises, moi je ne sais pas tout, du futur conseil départemental, l'aide à la personne, le maintien des personnes âgées à domicile, tout ça, on nous disait que ça allait être créateur d'emplois il y a quelques années, avec des auxiliaires de vie à profusion, que c'était le filon. Et puis quoi, les APA, ça n'a pas été si simple, non?
Alors, c'est un chiffre non contesté. Le département de Tarn-et-Garonne est le département qui donne une allocation la plus importante APA, donc allocation personnalisée autonomie, à domicile. Ce qui a pour but de maintenir, bien entendu, à domicile les personnes âgées. Et de différer de quelques années, le plus longtemps possible, le plus tard possible, l'entrée en institution. À ma maison de retraite, pour parler simple. Donc, cela favorise les aides à domicile, comme vous le dites, si ce n'est que ces associations rencontrent des difficultés de gestion, parce qu'il y a un abondement qui n'est pas suffisant, et surtout, il y a, je dirais, un marché parallèle qui fait qu'il y a une offre de personnes qui sont moins professionnelles que ceux qui apparaissent dans les quelques associations. Et donc, ces associations de pauvres n'ont jamais fait un riche, mais enfin, je pense que si elles se regroupaient, on arriverait à faire des économies d'échelle au niveau de la gestion, au niveau de l'organisation. C'est peut-être une idée. Ensuite, il y a certaines communautés de communes, vous n'êtes pas seul à le savoir, bon, qui ont pris cette compétence. Et donc, c'est autant, le service est toujours rendu, mais, si vous voulez, c'est organisé par une collectivité. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs réponses. Ou les associations restent telles qu'elles sont, elles sont aidées. Et lorsqu'on se retrouve entre président de commission solidarité ou entre président de conseil généraux, on dit ces associations, pardon pour elles, mais elles sont perfusées, on dit. C'est pas vrai, ça. Elles sont perfusées parce qu'elles rencontrent ces difficultés que je vous évoquais. Donc, on a une aide plus substantielle des pouvoirs publics, et le conseil général y participe, il ne peut pas être seul, compte tenu du fait de la professionnalisation de ces personnes-là. Donc, on a bien des professionnels. Donc, il faut qu'ils se distinguent. On met pas n'importe qui pour encadrer ou s'occuper des personnes âgées à la maison de retraite de Caylus, ou de cette fond, ou de la Guépie, ou de Saint-Antonin. C'est pas vrai. On a des professionnels. Donc, c'est la même chose pour ce métier d'aide à domicile. Donc, voilà, professionnalisation au sein d'une association, ou alors, il faut que peut-être, c'est une question qui a été posée, on en a débattu aujourd'hui, c'est pas prêt, peut-être de voir un statut départemental, reprendre en compte, il y a un département qui l'a fait, voisin, c'est le Lot, mais bon, c'est une usine à gaz, hein. Ça a été très difficile.
Dans la dernière minute, en général, les candidats, je leur demande qu'est-ce que j'ai oublié de leur poser comme question et qu'ils ne voudraient pas partir sans en avoir parlé. Donc, c'est le moment.
Bien, bah écoutez, moi, je voudrais dire que le travail que nous avons fait, c'est pas je, Jacques Tabarly, mais c'est dans mes fonctions, bah, je souhaite le continuer. Avec la même énergie, la même force. On ne le fait pas tout seul, donc on ne se substitue pas aux maires, on vient à leur côté, en appui, pour porter ces politiques. Donc c'est comme on l'a été dans la vie professionnelle. Bon, je l'ai dit, j'étais directeur d'hôpital. On tient compte des attentes des usagers. Lorsqu'on est maire et conseiller général, on est à l'écoute des administrés. Et donc c'est... je consacrerai de l'écoute et de la disponibilité permanente. Et je tiens à dire que, faisant partie de la majorité départementale et soutenue par elle, je porte des valeurs républicaines de solidarité, d'unité et de tolérance et aussi de rassemblement. Voilà ce que je voulais dire.
Un dernier mot, Anne-Philippe.
Une réelle volonté de représenter ce tout est du département.
Anne-Philippe, Jacques Tabarly, je vous remercie.
Merci.
À cette élection sont également candidats Thierry Cabanne avec Carole Denequin, Sylvie Leray avec Yves Sicard, Elsa Moreau avec Yves Vidaillac, Monique Ferrero avec Léopold Viguier, Gladys Matruda avec Thierry Leroy.